Radio Okapi. Dans un message consigné dans une note de plaidoyer à remettre à James Swan en visite à Goma, les femmes de Goma ont laissé entendre que les accords de paix signés dans les capitales étrangères n'ont aucune valeur s'ils ne transforment pas concrètement la vie des populations au Nord Kivu. Le coordonnateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, Ibrahim Akone, s'est déclaré globalement satisfait du déroulement des opérations de vaccination organisées dans les pays. Il a en outre encouragé les gouvernements congolais et ses partenaires à maintenir une surveillance accrue afin d'éviter toute résurgence du virus. Dans la ville de Beni, l'opération d'identification des sages-femmes en vue de leur inscription au tableau de l'Ordre des sages-femmes a officiellement débuté ce vendredi. Pour en parler, nous recevons Ambroka Kabeya, le président du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Les accords de paix signés dans les capitales étrangères n'ont aucune valeur s'ils ne transforment pas concrètement la vie des populations au Nord Kivu. C'est le message que les femmes de Goma adressent au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Ce message a été consigné dans une note de plaidoyer à remettre à James Swan en visite à Goma. Les détails de ses plaidoyers avec Rosalie Zawadi.
Un cessez-le-feu ne peut se limiter à un texte signé à Luanda ou ailleurs. C'est par ces mots fermes que les femmes de Goma ont interpellé James Swan. Pour ses mères, ses filles et ses activistes, la paix n'est pas une question de diplomatie, mais une question de survie. Derrière les chiffres des rapports, elles rappellent aux représentants spéciaux la réalité insoutenable du quotidien. Les déplacements forcés en pleine nuit, les écoles qui ferment et surtout les corps des femmes utilisés comme un champ de bataille à travers les violences sexuelles sur les lignes des fronts. Les femmes du Nord Kivu refusent d'être des simples victimes. Elles se présentent comme des actrices de paix et exigent une place réelle à la table des négociations. Elles veulent voir des actions concrètes qui impliquent les femmes, car pour elles, une paix qui s'est construite sans les femmes n'est pas vraiment la paix, mais une illusion. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ce temps, près de 30 000 personnes ont fui depuis le mois de mars les menaces de la milice de Convention pour la Révolution Populaire, CRP, ainsi que les opérations militaires menées contre ce groupe armé dans les territoires de Djougou. La plupart des déplacés qui ont tout abandonné se sont installés sur les sites de Djaïba, ainsi que dans la localité d'Ala, où ils vivent dans des conditions très difficiles. Ces populations déplacées lancent un appel urgent à l'assistance humanitaire. Reportage.
Un afflux de déplacés enfui les récentes attaques de la milice CRP est observé dans plusieurs localités du territoire de Djougou. Au site de Djaïba, près de Fataki, environ 12 000 nouveaux déplacés sont arrivés depuis le mois de mars et dépourvus de tout, précise la présidente du site. La plupart passent la nuit à la belle étoile, exposés aux intempéries en cette période de pluie. Certains tentent de construire des abris de fortune en paille. Didjo Antoinette lance un appel à l'aide.
Chacun construit son abri de fortune. Ceux qui n'en ont pas les moyens dorment dehors chaque jour, même sous la pluie. Il n'y a pas de place, pas de couverture. Nous demandons de l'aide.
Par ailleurs, plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge dans les groupements Mbrobo et Ahala. Elles sont accueillies dans des familles d'accueil ou occupent des écoles, ce qui perturbe les activités scolaires. Le chef de Walendu Pitsi dit avoir identifié un site pour héberger ces déplacés, mais sollicite l'appui du gouvernement et des humanitaires. Dédonné Paris.
Faire nourrir cette population à grand nombre, ça nous fait des problèmes. Il fallait que ces déplacés colèrent face à un site, là où ils peuvent être sécurisés.
D'autres déplacés ont fui vers les territoires de Mahagi où ils vivent également dans des conditions précaires. Ils demandent au gouvernement de rétablir la paix afin de mettre fin à l'errance des populations dans la région. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le calme est revenu ce samedi au quartier plateau médical de la commune de Makiso à Kisangani dans la province de la Tchopo, contrairement à la journée de vendredi où les échauffourées ont éclaté entre les habitants des blocs cabines et certains militaires. Pomme de discorde, la tentative de leur déguerpissement menée par ces militaires. Une situation décriée tant par l'autorité urbaine que par certains élus locaux. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
La tension est montée d'un cran lorsque les résidents ont érigé des barricades pour bloquer l'accès à leur quartier. Ces familles étaient sommées de quitter le site qu'ils occupent depuis de nombreuses années. Certains détiennent même des titres officiels de propriété. Mécontents, les habitants de ce quartier, qui du reste est situé à proximité de l'aéroport de Simisimi, ont érigé des barrières bloquant tout accès dans leur quartier. C'est ainsi que des policiers ont été dépêchés sur place pour dégager la route et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour rétablir l'ordre, les policiers étaient obligés de tirer en l'air, sémant la panique dans ce quartier. Une situation décriée par plusieurs personnalités de la ville. Le maire de la ville exprime sa surprise. Denis Likonde affirme n'avoir été ni consulté, ni informé de cette descente des militaires sur le terrain. Pour lui, l'heure n'est pas à la confrontation. Il appelle les autorités supérieures militaires à prendre une décision plus sage pour éviter un embrasement dans sa juridiction. De son côté, Patrick Matata, député national élu de la ville, a immédiatement affiché sa solidarité avec la population, plaidant pour l'ouverture urgente d'une table de négociation. La société civile, par la voix de l'activiste Jean-Pierre Guindou, rappelle de son côté que le droit au logement est sacré et exige le strict respect des procédures d'expropriation en vigueur. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, la tension monte autour d'une nouvelle opération de délimitation menée par des militaires de FARDC dans les quartiers plateau médical, notamment dans la zone de Simisimi. Face à la crainte de nouvelles démolitions, le député national Théovel Lotika Likwela demande au gouvernement de suspendre cette opération. Dans une correspondance adressée ce vendredi au vice-premier ministre en charge de la Défense, il plaide pour une surséance de la décision en attendant la vérification des droits des occupants. L'élu de Kisangani propose également la mise en place d'une commission mixte réunissant l'armée, les services fonciers et les occupants afin de trouver une solution concertée et durable. On écoute Théovel Lotika au micro de Grace Amzati.
Il y a lieu de vous rappeler ici que ce n'est pas la première fois, car il y a quelques années, cette opération a été menée par la force aérienne. On a déguerpi les gens. Et l'armée, cette fois-là, avait déjà fixé les limites de sa concession ou de son domaine. Et tout le monde qui était dans cette partie-là, considéré comme le domaine de l'État, a été déguerpi et puis derrière de la plus sale manière. Il y en a qui ont perdu beaucoup de biens, mais aussi il y en a qui ont perdu des vies. Aujourd'hui encore, elle revient en charge pour aller au-delà de là où elle s'était fixée comme limite, envie de déguerpir encore ces gens-là. Nous demandons par l'occasion à la population de rester sereine, de rester calme, de ne pas paniquer, de ne pas se donner aux actes de provocation. L'armée est là pour sécuriser les pays, mais aussi pour sécuriser sa population. Et donc, je ne pense pas que c'est le lien ou c'est le moment ou c'est l'occasion de s'enfronter avec les militaires. Le sang a trop coulé dans ces pays et nous ne pouvons plus accepter que le sang puisse continuer à couler inutilement là où on peut trouver une solution pacifique.
Ce journal se poursuit dans la province du Haut-Katanga, où ont débuté hier vendredi des audiences en procédure de flagrance au tribunal de grande instance de Lubumbashi après la mort d'un détenu au cachot de cette institution judiciaire. Une situation décriée par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, bureau de représentation provinciale du Haut-Katanga. Le point avec Paulin Munanga.
Au cours de l'audience, il a été mentionné que la victime était détenue au cachot de la police d'investigation criminelle le 7 avril dernier. Elle était accusée d'extorsion. À l'issue d'une inspection faite par les parquets de grande instance de Lubumbashi au cachot de la police, il a été décidé du transfert de certains détenus au cachot du parquet de grande instance, dont la victime. C'est là que deux de ses co-détenus l'ont roué des coups avant qu'il n'en meure quelques jours après. Au cours de cette première audience, les deux prévenus incriminés ont révélé qu'ils étaient des mineurs. Le tribunal a requis une expertise médicale sur leur âge exact. Ainsi, l'audience a été renvoyée au mercredi 29 avril prochain. La CNDH dénonce la mort de ces détenus et rappelle qu'il existe des principes fondamentaux en matière pénale relatifs à la protection et à la promotion des droits humains tels que les droits à des bonnes conditions de détention. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Au lendemain de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, le coordonnateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite IMEP, Ibrahima Kone, s'est déclaré globalement satisfait du déroulement de ses opérations. Dans un entretien accordé ce vendredi à Radio Kapi, il a encouragé le gouvernement congolais et ses partenaires à maintenir une surveillance accrue afin d'éviter toute résurgence du virus. Il a également salué l'engagement des bailleurs de fonds, notamment l'UNICEF, pour leur implication dans la mobilisation des communautés avant et pendant cette campagne de vaccination. Ibrahima Kone au téléphone avec Blaise Ndongala Mayanda.
On a quelques poches de population effectivement qui sont réticentes à la vaccination, mais nous avons quand même pas mal d'expérience en la matière. Nos collègues de l'UNICEF sont de grands connaisseurs de cette problématique. Ils ont développé une expertise à travers le monde parce que ce qui est important de l'initiative de l'éradication mondiale, c'est que toutes les agences mutualisent leur savoir-faire. Pour les questions de refus, c'est l'UNICEF qui a le leadership et elle a une expérience, cette organisation avérée. Les autorités, le message, c'est de les féliciter et de continuer à poursuivre les efforts en vue de l'éradication. Parce que les efforts ne sont pas consentis seulement par les partenaires, les assistants techniques. Le deuxième message, c'est que le combat n'est pas fini. Il faut qu'on s'assure que tous les enfants vont être vaccinés, de manière à ce qu'on crée une barrière qui empêche le virus de se transmettre de l'homme à l'homme. Donc, pour les communautés, le message est simple. Nous n'avons pas fini. Ne vous inquiétez pas. Le vaccin est sûr. Faites-nous confiance.
Une vaste campagne nationale de vaccination intégrée a été lancée à travers la RDC le 19 avril 2026, ciblant environ 23 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire national. Santé toujours, la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite se termine ce dimanche dans la province du Congo central. Ce sont plus de 2,3 millions d'enfants allant de 6 mois à 14 ans qui sont attendus sur toute l'étendue de la province. Si certains parents se disposent à faire vacciner leurs enfants, d'autres sont plutôt réticents, évoquant la multiplicité des vaccins. Des précisions avec Élise Kavira.
L'approche de la présente campagne est différente des précédentes où presque tous les enfants étaient vaccinés à domicile ou dans des centres de vaccination en présence de leurs parents. Pour cette édition, une grande partie d'enfants visés sont en âge scolaire. Cette approche suscite de la réticence chez certains parents qui ne comprennent pas pourquoi leurs enfants devraient être vaccinés en leur absence. À l'exemple de Pichuma Koko, parent de 3 enfants âgés de 12, 9 et 5 ans non encore vaccinés. Il estime que la communication n'a pas été suffisante sur les différents vaccins.
Ce que nous déplorons, c'est de voir nos enfants vont à l'école et se faire vacciner là-bas. Nous devons avoir les explications sur les vaccins que nos enfants reçoivent.
Face à cette réticence, le docteur Nestor Chitekou, chef de division provinciale de la santé du Congo central, donne des précisions suivantes.
Pour la poliomyélite, ce sont les enfants de 0 à 5 à 9 mois. Et pour la rubéole et rougeole, ce sont les enfants de 6 mois à 14 ans. Donc vous comprenez que tous ces enfants, nous pouvons plus les retrouver que dans des écoles.
Selon la division provinciale de la santé du Congo central, une période de ratissage d'au moins 2 jours est prévue afin d'atteindre le plus grand nombre d'enfants sur toute l'étendue de la province.
Dans un autre chapitre, dans la province du Tanganyika, certains habitants de la cité de Kongolo sont descendus dans la rue. Raison évoquée, protester contre la délocalisation du centre d'adaptation et de production des semences améliorées, CAPSA, vers le territoire de Moba en raison de l'impraticabilité des routes à Kongolo. Cette nouvelle de la délocalisation aurait été annoncée par le ministre national de l'Agriculture à l'Assemblée nationale. Explication avec Paulin Munanga.
Accompagnés par la fanfare, les manifestants ont sillonné quelques artères de la cité de Kongolo avec comme point de chute les bureaux du territoire. Ils jugent la décision du ministre national de l'Agriculture incompréhensible et inacceptable. Ils soulignent que Kongolo a besoin d'emplois et d'investissements. Pour eux, déplacer ces centres, c'est appauvrir les territoires de Kongolo. Dans leur mémo lu devant l'administrateur du territoire, les jeunes manifestants rappellent les atouts de Kongolo. Charlan Katongola, président des jeunes conscients des Congolos.
Excellence, nous demandons votre descente sur terrain afin d'apprécier l'état des infrastructures existantes. Une délocalisation signifierait un gaspillage d'un patrimoine historique au profit d'un site inexistant à Moba. Kongolo est un grenier agricole depuis la nuit des temps ayant à travers des projets majeurs comme Est Agrico, Projet Nord Chaba, Genagro et nourrissait beaucoup d'entités de la RDC, notamment le Grand Kassai, le Grand Katanga et bien au-delà.
À en croire les jeunes de Kongolo, c'est depuis 1942 que le centre d'adaptation et de production des semences améliorées CAPSA a été installé dans les territoires de Kongolo par les autorités coloniales. Il est situé à une trentaine de kilomètres de Kongolo centre. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, la traque des camions de transport des marchandises à châssis localement modifié a démarré ce vendredi dans la région de Beni Butembo et Lubero. L'opération est supervisée par le commissaire provinciale de la police nationale congolaise après l'expiration du moratoire des 30 jours accordé aux utilisateurs de ces camions. C'est en exécution d'une note circulaire signée au mois de mars dernier par les gouverneurs du Nord Kivu. Ces camions dont le tonnage est élevé sont d'après les autorités à la base de la dégradation des routes sur plusieurs axes de la province. Les détails avec Marc Marofimbo.
C'est au Grand Rokonyamwisi, en plein centre-ville de Beni, que l'opération des tracts de camions à conteneurs et châssis modifiés localement a été officiellement lancée. Des camions dont le tonnage dépasse les normes autorisées, communément appelées box body, sont interceptés par la police. Plusieurs d'entre eux ont été conduits vers des sites de déchargement où ils sont désormais immobilisés. Selon la police nationale congolaise, ces véhicules ont vu leurs conteneurs modifiés de manière artisanale afin de transporter une quantité excessive de marchandises. Conséquence, les routes et ponts sont détruits. Le conseil urbain de la jeunesse de Beni salue cette mesure en parlant de la protection des infrastructures routières, dont celles en construction. Joël Kabunga est son président.
Nous sommes très satisfaits par cette mesure qui vise à protéger les infrastructures de notre région, qui va aussi permettre à la société qui est en train d'entretenir cette route à accélérer les travaux afin que la construction de cette route soit une réalité. On a salué que la police s'est impliquée dans cette question en interceptant certains véhicules. Nous demandons à toute la jeunesse de s'approprier cette mesure qui vise à protéger nos infrastructures routières.
L'opération est également en cours à Kassindi-Rubiria, à plus de 90 km au nord-est de Beni, principale porte d'entrée des marchandises en provenance de l'Afrique de l'Est. Elle concerne également la ville de Butembo, centre d'entreposage et de distribution des marchandises dans la région. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, des détonations et des tirs sont entendus depuis le début de la matinée, ce samedi 25 avril, dans plusieurs localités maliennes. L'armée affirme combattre des groupes terroristes ayant attaqué des casernes. Au Burkina Faso, plusieurs soldats et membres des volontaires pour la défense de la patrie VDP seraient également portés disparus depuis l'assaut qui s'est déroulé tôt dans la matinée du mercredi 22 avril.
L'invité.
Dans la ville de Beni au Nord Kivu, l'opération d'identification des sages-femmes en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes a officiellement débuté ce vendredi. Une démarche qui vise à encadrer la profession et améliorer la qualité des soins dans un contexte marqué par un taux élevé de mortalité maternelle et néonatale. Pour en parler, nous recevons le président du conseil national de l'ordre des sages-femmes en République démocratique du Congo, Amboka Kabeya, s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Amboka Kabeya, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce que le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, quels sont ses objectifs et comment il fonctionne concrètement?
L'ordre national des sages-femmes, c'est un organe régulateur de la profession, plus précisément de la profession sage-femme, un organe institué par la loi. Une loi signée par le président de la République en date du 30 novembre 2023. Donc c'est un organe qui protège le public en s'inscrivant dans la logique de savoir qui est sage-femme, qui ne l'est pas, et qui a des compétences, qui n'en a pas, afin de protéger le public contre un exercice non légale ou alors l'exercice qui n'est pas basé sur les compétences.
Justement, la profession des sages-femmes est souvent qualifiée de métier noble, mais aussi à haut risque. À ce jour, quel état des lieux dressez-vous des sages-femmes en RDC en termes d'organisation, de formation et de qualité des prestations sur l'ensemble du territoire national? Et
effectivement, le bilan est très positif. C'est comme je venais de le présenter, c'est une profession qui est allée d'une profession auxiliaire, aujourd'hui une profession médicale définie, une profession qui est allée de la dénomination empirique appelée matrone et autres, aujourd'hui des professionnels bien qualifiés et régulés par une loi. Une profession qui était additionnelle hier, aujourd'hui qui est une profession à part entière et autonome. Et une profession qui a travaillé hier dans un cadre vide juridiquement, aujourd'hui réglementé par une loi. Donc le bilan de cette progression, c'est une progression ou un bilan très positif. D'autant plus qu'aujourd'hui la sage-femme se fait sentir, sa place est identifiée et il reste indispensable pour la santé maternelle et néonatale. Comme nous l'avions dit, c'est une loi qui met en place un organe régulateur. Cet organe-là, comme je le disais, identifie qui est sage-femme et qui ne l'est pas, essaye de voir celle qui y est sage-femme, est-ce qu'elle a les compétences de base reconnues pour une sage-femme, qui doivent s'inscrire à ce tableau-là de l'ordre d'une façon obligatoire, parce que nul ne peut exercer la profession de sage-femme en RDC s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre. Donc, pour s'inscrire, voilà le processus qui commence aujourd'hui, qui vient de lancer son Excellence Madame la Ministre Provinciale de la Santé, qui, en même temps, représentant personnel de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, c'est un processus qui commence, et qui commence par quoi ? Tel que consacré par la loi au point 4 de l'article 6 de la loi, disant que nul ne peut exercer sans être inscrit au tableau de l'ordre, cette inscription-là passe par un test national d'accréditation des compétences. Donc la sage-femme, pour être sûre qu'elle fait preuve de compétences voulues, elle doit passer par un test national qui a une partie théorique, une partie pratique, et doit valider avec un seuil acceptable de 70% dans les deux parties afin de pouvoir être admis à la prestation de serment et enfin inscrit au tableau de l'ordre. Ça veut dire que les deux parties, la personne doit avoir au moins 70% en théorie et 70% en pratique. Si une partie fait défaut, il n'est pas admis. Il doit revenir à une formation de remédiation que nous appelons séminaire Teresa, parce que c'est un citoyen congolais, on ne va pas l'abandonner. On doit les remédier afin de pouvoir passer le même test et atteindre le seuil avant qu'il soit admis à la prestation de serment et inscrit au tableau de l'ordre.
Voilà, ce séjour à Beni, l'opération officielle d'identification et d'inscription des sages-femmes au tableau de l'ordre. Concrètement, qu'attendez-vous de cette opération et en quoi peut-elle contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dont les taux restent très élevés dans notre pays?
Effectivement, la loi, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. La loi s'impose et c'est opposable à tous. Donc pour dire que s'imposer, d'autant plus que c'est un domaine très sensible. Vous savez, aujourd'hui, la RDC connaît un taux de mortalité très élevé des femmes et des nouveau-nés. Alors pour réguler ce domaine-là, afin de protéger le public, donc il est appelé à toute sage-femme, lauréat qui venait de terminer ses études ou alors qui est en exercice, qu'il n'a pas une autre voie que de venir vers l'ordre et s'inscrire. Parce que d'ici, après le mois de décembre 2026, c'est le temps qu'on a accordé à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, le temps qu'on a accordé pour les sages-femmes de se mettre en ordre. Donc, ils doivent venir vers leur ordre provincial, enfin, de passer le processus, comme nous le disons, de testation d'acquisition de compétences, prestation de serment, inscription au tableau de l'ordre pour exercer. Donc, c'est une voie obligée, ce n'est pas une faculté, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation.
Monsieur Ambroka Kabea, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
C'était donc notre invité Ambroka Kabeya qui s'entretenait avec Marc Marofimbo. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée, préparé pour vous par Jean Gando Kabongo et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.